tonalité musicale des années 80, vous l'avez remarqué. Hein. Qui ne connaît Jean-Claude Bourré ? C'est le seul journaliste que même les extraterrestres doivent connaître. Bonjour Jean-Claude. Mon cher Jean-Claude, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous, mon cher.
Oh, formidable, Jean-Claude. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct. Alors évidemment, ce sont les problèmes du direct, mais là, ça marche, on vous entend, et j'espère que vous nous entendez aussi.
Impeccable.
Parfait. Vous y étiez de quand à quand sur RMC, Jean-Claude Bourré ?
De 1994 à 1999.
Et ça n'était pas une période facile, la radio était au plus bas, vous étiez là pour essayer de faire remonter l'audience ?
Ben, j'étais là comme vous, comme tous les journalistes de l'époque, les animateurs. Le but d'une radio, c'est d'avoir le maximum d'auditeurs. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais nous étions confrontés à une direction qui était un peu déconnectée de la réalité de fonctionnement des gens. Moi, j'avais proposé une double révolution, c'est-à-dire que je voulais prendre des auditeurs à l'antenne. L'énarque qui commandait à l'époque RMC, et qui était aux ordres des capitaux qui étaient propriétaires de la chaîne, avait dit non. Et puis j'avais proposé également de modifier complètement la façon de fonctionner. J'avais dit, maintenant nous sommes dans une situation technique où n'importe quel journaliste, via son téléphone portable, et notamment des téléphones satellitaires qui existaient déjà à l'époque, est capable de passer en direct de n'importe où. Et donc, il faut arrêter de demander aux journalistes de venir à la rédaction des RMC à Monaco, mais il faut que chaque journaliste soit indépendant avec une voiture transformée en studio. Et ça n'a pas encore été fait, même aujourd'hui.
Un petit souvenir avant de continuer cette discussion avec vous, Jean-Claude. Ça va vous rappeler de belles années ?
7h15, les grands repères de l'actualité en titre, Jean-Claude Bourret.
Le conflit des routiers, désaccord total avec le patronat malgré des avancées sur la retraite à 55 ans. Les négociations doivent reprendre cet après-midi. En attendant, les barrages continuent. Attention, mauvaises conditions de circulation en Rhône-Alpes et en Auvergne en raison des chutes de neige et du verglas cette nuit. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté la création d'un fonds d'épargne retraite en approuvant les premiers articles de la loi. Les députés continuent le vote du texte ce matin. Tunnel sous la Manche, le trafic a repris partiellement pour les marchandises. Le trafic voyageur ne sera pas rétabli avant 3 ou 4 jours. Dans les Alpes-Maritimes, à Nice, deux jeunes de 16 ans ont été mis en prison pour le viol répété d'un enfant de 6 ans. Football en D1, match vedette ce soir à Paris entre le PSG et l'OM.
Ça vous a rappelé des souvenirs, Jean-Claude ?
Oui, ça m'a rappelé des souvenirs et ça m'a rappelé ce que je dis dans les écoles de journalisme maintenant. Je dis que nous sommes arrivés dans une situation culturelle où les jeunes journalistes, enfin pas tous heureusement, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas lire, c'est-à-dire qui n'articulent pas, qui ne savent pas marquer un petit temps à la fin d'une phrase. Alors vous entendez des titres de journaux comme « Accident de chemin de fer à Beauvais, la reine d'Angleterre ». Alors vous dites « La reine d'Angleterre a eu un accident de chemin de fer à Beauvais ». Non, c'est « Accident de chemin de fer à Beauvais ». La reine d'Angleterre est arrivée en visite officielle en France. Moi, voilà, mais on ne met pas de temps, on lit comme ça à toute vitesse.
Je me souviens que vous avez quand même une conception tout à fait particulière d'un journal. Ça m'avait frappé quand je travaillais avec vous. Votre credo, c'était des témoignages les plus courts possibles pour donner un maximum d'infos. C'est toujours votre credo ?
Oh, c'est pas le problème de donner un maximum d'infos. C'est que plus vous délayez une information, moins elle est percutante. C'est comme une lame de couteau, plus elle est épaisse et moins elle rentre dans le beurre. Donc il faut que l'information que vous donnez soit le plus court et le plus clair possible. Si vous êtes obligé de faire 3 minutes pour expliquer ce dont vous voulez parler, l'auditeur ou le téléspectateur décroche.
Qu'est-ce que vous retiendriez de vos années passées à Radio Monte-Carlo ?
Alors, d'abord, une atmosphère, comme disait... la célèbre actrice atmosphère. Eh bien, une atmosphère tout à fait sympathique. On se réveillait le matin, quand je partais travailler à la rédaction à 4h du matin, les mois d'été, évidemment, avril, mai, juin, le soleil se levait très tôt, à 5h, il commençait à faire jour. C'était évidemment très agréable. Et puis, nous étions dans une principauté qui... n'a pas changé, puisque j'y compte encore des amis, et qui est très agréable à vivre, parce que les gens sont bien élevés, parce que il y a une sécurité qui est incontestable, et il y a évidemment un niveau de vie qui ne correspond pas aux banlieues dites difficiles.
Il y a deux radios où, à ma connaissance, vous n'avez jamais travaillé. C'est RTL et Europe. Vous auriez aimé ça ou ça ne vous a jamais tenté?
Europe 1 m'avait demandé il y a, je sais plus, 40 ans, de faire pendant une semaine une série d'émissions le soir sur les ovnis, ce que j'avais fait volontiers. Et Europe 1 a été la première radio sur laquelle je me suis exprimé. J'étais encore étudiant en journalisme. Mais bon, non, ça, vous savez, Europe 1, RTL, Radio Monte Carlo, votre radio, c'est toujours le même principe. C'est un être humain face à un micro qui essaye d'intéresser les auditeurs en leur expliquant ou en leur dévoilant des informations qui peuvent les intéresser ou les enrichir.
C'est quoi l'avenir de la radio pour vous ?
Alors, l'avenir de la radio passe évidemment par le satellite, puisque maintenant vous avez des radios qui reçoivent le numérique, mais je trouve que maintenant, comme il y a une multiplication extrêmement rapide des moyens de communication, la technique va plus vite que l'esprit des hommes, on ne sait pas très bien ce qui va gagner, puisque sur le smartphone, vous avez tout, vous avez la télé, vous avez la radio, vous avez le web, et donc vous avez un outil unique qui vous sert à tout faire, y compris la caméra, y compris la vidéo, y compris le montage, y compris les dictionnaires, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes dans une période où l'intelligence artificielle va plus vite que l'intelligence de l'homme.
Vous avez été un grand de la télé aussi, notamment avec la 5. J'aurais envie de vous demander, bon, c'est peut-être un peu factice comme question, mais quel exercice vous préférez, télévision ou radio ?
Oh, écoutez, maintenant...
C'est pas la même chose, quand même.
Oui, ça n'a pas la même chose, mais ça n'a plus aucun sens, puisque n'importe lequel de vos auditeurs qui a un smartphone peut faire une émission de télé, instantanément, en direct, dans le monde entier. Ça a complètement changé. Quand j'étais rédacteur en chef de la 5, je demandais à mes assistants, j'ai dit « prends-moi un satellite en urgence pour avoir un contact avec Moscou, par exemple ». Le délai était de 3/4 d'heure. Ça coûtait une blinde. Maintenant, pour avoir Moscou image et son en direct, vous le tapez sur votre smartphone, vous l'avez en une demi-seconde. Donc tout ça a changé, la technique a tout changé. L'intelligence artificielle, je vais peut-être écrire un livre là-dessus parce que j'écris beaucoup de livres en ce moment, mais je pense que l'intelligence artificielle va finir par prendre le pouvoir, n'est pas loin d'ailleurs de l'avoir pris, va prendre le pouvoir dans le monde entier, et que l'intelligence artificielle va naturellement, si j'ose dire, tuer l'homme, parce que la finalité de la vie, c'est de donner la vie. Mais la finalité ultime de la vie, c'est de sauver l'intelligence de façon définitive, c'est-à-dire que nous devons quitter la planète Terre pour aller porter cette intelligence, nos connaissances et notre culture sur une autre planète. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais nous n'en sommes pas très loin. Et c'est le thème d'ailleurs des derniers livres que j'ai écrits avec Jean-Pierre Petit, qui est un ancien directeur de recherche au CNRS et qui explique comment on peut aller d'un système planétaire à un autre système planétaire en transcendant les lois de la relativité qui, pour l'instant, sont celles que nous étudions à l'université et qui expliquent qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, mais que même à cette vitesse qui est phénoménale, puisqu'en gros, c'est la distance de la Terre à la Lune en une seconde, bon, la Terre-Lune, ça fait 370-380 000 km, et ben, il faut encore 4 ans pour aller vers l'étoile la plus proche. 4 ans. Que si vous allez dans l'autre bout de la galaxie, vous allez mettre 100 000 ans.
Ça tombe bien que vous nous parliez du livre que vous allez écrire, parce que j'allais vous demander, que devient Jean-Claude Bourret aujourd'hui ? Il est toujours sur les ondes ? On le voit ou on l'entend quelque part ?
Alors Jean-Claude Bourret va avoir 80 ans le 17 juillet 2021, c'est-à-dire dans 5 ou 6 semaines. Et je n'ai pas vu passer le temps, j'ai une vie merveilleuse. Je ne travaille évidemment plus de façon régulière sur une radio ou une télé, même si on me propose sans arrêt de faire ce genre d'exercice. Non, je suis en train d'écrire. J'ai terminé d'ailleurs une bande dessinée qui va sortir le 1er juillet et qui a transformé en bande dessinée les premières enquêtes que j'ai faites sur les ovnis il y a presque 50 ans sur France Inter, quand j'étais rédacteur en chef de France Inter. Et je suis tombé sur un dessinateur absolument merveilleux qui a parfaitement compris comment il fallait réaliser les rapports de la gendarmerie ou les enquêtes que nous avions faites sur le terrain. Je pense que ça va être une BD qui va intéresser les petits, les moyens et les grands.
Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir été avec nous pour cette fête de la radio et à bientôt.
À bientôt, merci Noël.